France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et si pour avancer, il fallait d'abord se retourner ? Nos origines, notre histoire familiale, nos racines culturelles nous façonnent souvent sans qu'on en ait conscience. Portés par un monde qui va toujours plus vite, on en oublie parfois de se demander « d'où je viens ?». Ce matin, nous partons en quête de sens et de repères. Comment nos racines influencent-elles nos choix et nos rêves ? Que risque-t-on à ignorer ou effacer une partie de notre histoire ? Et à l'inverse, comment transformer cet héritage en boussole pour l'avenir ? Pour comprendre d'où ils viennent, certains ouvrent les vieux albums de famille et interrogent les parents en espérant que la mémoire familiale comblera les zones d'ombre. D'autres se plongent dans les archives, croisent dates et lieux en reconstituant l'arbre généalogique comme un puzzle auquel il manque souvent une pièce. Quelle que soit la méthode, une chose est sûre, interroger son passé familial, c'est souvent accepter de dialoguer avec plusieurs voix. La voix intime des proches, la voix irréfutable des documents, et celle plus subtile des émotions enfouies. Ce matin, on plonge ensemble dans un voyage entre passé et futur. Alors on attend vos appels au 01 45 24 7000 ou vos messages sur l'appli Radio France. Nous sommes le mardi 12 août. Grand bien vous fasse, en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
C'était en 2019, c'était l'été. À ce moment-là, j'avais 6 ans. Et moi, je savais pas ce que c'était le Maroc. J'étais jamais allée. J'étais un peu curieux, excitée. Je peux même pas décrire ce moment, c'était fabuleux. On est resté un mois pendant ce voyage. J'ai découvert beaucoup de ma famille maternelle. J'allais voir ma grand-mère, je savais pas c'était qui. Je l'avais vue en photo, mais bon. Enfin, la photo, c'est vraiment pas la réalité. Et du coup, là, elle m'a vue, elle a vu mon père. Elle s'arrête de pleurer, du coup. Mais pleurer de joie. Elle m'a vu, moi, elle m'a serré dans ses bras. Du coup, bah, j'ai pleuré. Ma grand-mère, je restais souvent avec elle, j'allais au marché avec elle. Je ne savais pas parler arabe à cette époque, mais maintenant, je sais parler un peu. En fait, elle me comprenait parce que déjà, on se faisait des signes. Mais du coup, on parlait pas, on se faisait que des câlins, des bisous, c'est tout. Enfin, c'était ma grand-mère, quoi.
Un extrait du documentaire « Le jour où je suis allée pour la première fois dans mon pays d'origine ». On perçoit la joie de ce petit garçon qui découvre ses racines, l'amour qui le lie instantanément à sa grand-mère. Pour ça, pas besoin de parler la même langue. Ce matin, nos invités sont des spécialistes du voyage dans le passé. Et grâce à leur expertise, nous allons pouvoir explorer l'importance de nos racines. Bonjour Elsa Ramos.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et dans votre livre « Un anthropologue dans ma famille » publié aux éditions Bûcher-Castel, vous nous aidez à mener l'enquête sur notre histoire familiale. On va y revenir tout à l'heure. Bonjour Nathalie Zaïdé.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes psychologue, maître de conférences en psychologie à l'Université Paris 8, autrice de nombreux ouvrages de psychologie aux éditions Odile Jacob. Vous avez sorti votre premier roman, La patiente du jeudi, aux éditions L'Antilope, sur lequel on va s'appuyer ce matin pour explorer notre thème. Bonjour François Baron.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes administrateur de la Fédération française de généalogie, vice-président de l'association Les Jeunes et la Généalogie. Remonter le temps, c'est votre passion et on aura besoin de vos lumières ce matin. Bonjour Edouard Bouillet.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes le directeur des archives départementales de la Côte d'Or. Vous êtes donc un expert de ces documents dont je parlais tout à l'heure, ces documents si précieux lorsqu'on décide de partir à la quête de notre histoire familiale. On va s'intéresser d'abord à votre rapport à tous avec ce passé, avec ses racines. D'abord avec vous, François Baron, je l'ai dit, vous êtes vice-président de l'association Les Jeunes et la Généalogie. Qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, vous a amené à vous intéresser à la généalogie?
C'était un décès, le décès d'un frère, quand j'avais 12 ans. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire familiale 2 ou 3 ans après. Et puis j'ai pas arrêté et je continue. Donc en particulier avec l'association des jeunes à la généalogie, où on s'appuie sur des valeurs humanistes dans cette association. On inscrit notre action dans celle de l'UNICEF qui dit « regardez en arrière pour aller en avant ».
C'est un peu le thème de notre émission.
C'est le thème de notre émission, tout à fait. Et la journée européenne des droits de l'enfant qui dit « Je grandis comme un arbre, j'ai besoin de mes racines ». Donc c'est vraiment dans le thème.
C'est une très très belle image ça. On constate un regain d'intérêt, j'ai remarqué, pour les origines familiales chez les jeunes adultes notamment. Est-ce que vous avez une idée de la raison de cet engouement pour la généalogie ?
Alors, je pense que dans notre période un peu chaotique, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose de solide, à un socle, à qu'est-ce qui a fondé là, ce qu'ils sont. Et je pense que c'est... Alors, il y a différentes raisons aussi. Hein. Il y a des gens qui veulent savoir s'ils sont cousins avec un homme politique célèbre ou une vedette du showbiz, ou je ne sais. Il y en a qui veulent savoir s'ils descendent de Charlemagne. Peut-être qu'ils ont envie d'hériter de l'héritage de Charlemagne. Ils vont peut-être essayer de faire un procès pour récupérer quelques... Bon... Mais je pense que ce qui est intéressant, surtout, c'est la relation avec les grands-parents, et vous en avez parlé tout à l'heure. Les enfants qui ont... Ça construit, les enfants, la relation avec les grands-parents. C'est ce qui va peut-être leur donner une vocation, une orientation dans leur vie, et c'est en ça que je pense que là, c'est important.
Alors, tout le monde ne cherche pas la même chose hein, quand il va explorer l'histoire familiale et l'histoire tout court. On a retrouvé une archive de 1975, écoutez.
Dimanche, à la Neuville-au-Pont, près de Sainte-Menoux, quelques 60 membres de la famille Gesson se sont réunis pour la première fois. Une réunion rendue possible par des années de recherche. Ils auraient pu être 130, mais tout le monde n'a pas le sens de la famille.
Quel était le point de départ de vos recherches, madame ?
Mon arrière-grand-père avait épousé une demoiselle Drouet. Vu les ressemblances de noms de famille et de prénoms avec Jean-Baptiste Drouet de Sainte-Menoux, qui a arrêté Louis XVI à Varennes, j'ai voulu savoir si nous avions un lien de parenté. J'ai donc commencé des recherches aux archives en 1959, mais je n'ai trouvé aucun lien de parenté. J'ai reconstitué l'arbre généalogique de mon arrière-grand-mère jusqu'à 1660.
C'est un gros travail.
Depuis 2 ans, je me suis acharnée aux archives pour avoir des documents.
Combien de membres de la famille avez-vous retrouvé ?
J'ai retrouvé 130 membres vivants actuellement.
130 membres retrouvés grâce aux archives. Édouard Bouillet, vous êtes avec nous, vous êtes directeur des archives départementales de la Côte d'Or. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on y trouve dans ces archives ?
Eh bien, d'abord, cette histoire est amusante parce qu'on raconte que Drouet a reconnu Louis XVI parce qu'il reconnaissait son effigie sur les pièces de monnaie. Donc c'est une histoire de ressemblance qui est à l'origine de l'affaire de Varennes. Donc cette archive
sonore... Un peu d'histoire, écoutez, ce matin, ça ne fait pas de mal.
Cette archive de 75 est intéressante. Et eh bien, je pense que cette dame, en 75, a épluché, si j'ose dire, les registres paroissiaux d'état civil, les recensements de population, toutes ces sources généalogiques que, depuis... Les archives en France sont numérisées et mises en ligne, ce qui facilite beaucoup la vie des généalogistes.
Absolument.
Oui, avant, ce n'était pas le cas.
Il fallait parcourir. Ça avait son charme aussi. Hein. Mmh. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est plus facile, surtout quand on est loin. Et souvent, les familles sont dispersées, sont loin. Et justement, la généalogie en ligne permet de faciliter ces rassemblements par des recherches dans nos salles de lecture virtuelles qui sont ouvertes.
Pour avoir accès aux documents des archives de la Côte d'Or, par exemple, est-ce qu'il faut se déplacer ?
Ben non, on a 8 millions d'images en ligne. Il suffit de taper archive.côtedor.fr. Et puis, peut-être vous pouvez demander à ChatGPT-5 de faire le travail, mais on n'y est pas encore. Hein. Mmh. Il faut quand même compulser des pages numérisées. Alors, il y a toutes sortes de relevés qui sont faits par les associations de généalogie, il y a l'indexation collaborative, il y a des programmes d'intelligence artificielle. Mais enfin, il reste du travail. Je crois qu'il y a le plaisir de la découverte en généalogie, mais mm-hmm. il y a aussi le plaisir de la recherche. Je parle sous le contrôle de François Baron.
De l'enquête, c'est une enquête de police.
Oui,
presque.
Une enquête comme celle que nous propose de mener Elsa Ramos dans son livre, on va y revenir. Ces archives de la Côte d'Or, comme celles d'autres départements, elles sont accessibles gratuitement ?
Oui, c'est un service public. Depuis la Révolution française, c'est un droit accordé à tous les citoyens. Et on est ouvert 44 heures par semaine.
Mmh. Elsa Ramos, on parlait de votre livre. Je suis l'anthropologue de ma famille. Vous proposez une enquête sociologique à mener chez soi. Comment elle est née, cette idée ?
Alors en fait, ça a été une commande qui m'a été faite par Laurent Lafont. Donc par Buchet-Chastel, en la personne de Laurent Lafont. Et travaillant beaucoup sur les relations familiales, sur la famille en France, mais aussi ailleurs, et par ailleurs ayant déjà rédigé des manuels ou des articles pédagogiques. Donc visiblement, j'étais la bonne personne pour mettre en œuvre cette demande.
Ça manquait un livre qui soit un guide pour nous aider, pour aider le tout un chacun finalement à explorer son histoire familiale ?
Alors visiblement oui, puisque Laurent Lafont est quelqu'un qui a une très grande connaissance de tout ce champ. Visiblement oui, et je pense que l'apport de ce travail, c'est effectivement de mettre à la disposition d'un grand public les outils qui sont utilisés par les chercheurs en sociologie, les chercheurs en anthropologie, donc... Nous, des outils qui nous semblent, un peu presque ordinaires.
Comme lesquels ? Quels outils, par exemple ?
Un carnet terrain quand on fait une enquête, ou un dictaphone quand on enregistre. Voilà, parce que souvent, c'est la prise de notes qui s'impose, par exemple, et de se dire, mais en fait, dans ce qu'on prend en notes, on apprend davantage de la personne qui prend les notes que de la personne qu'elle interroge, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un tri déjà qui est fait, et donc c'est vrai que le dictaphone, il est fondamental.
C'est vrai que, bon, on n'y pense pas forcément aujourd'hui avec le téléphone, on peut aussi enregistrer des conversations assez facilement. Nathalie Zaïdé, vous êtes également avec nous ce matin, vous êtes psychologue, maître de conférences en psychologie, spécialiste des traumatismes psychiques. Pourquoi est-ce que vous avez fait de ces trajectoires de vie votre spécialité ?
Parce que j'appartiens à une équipe, l'équipe du professeur Toby Nathan, une équipe d'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire que ça fait plus de 35 ans maintenant, près de 40 ans, on accueille les patients en s'interrogeant sur leur parcours personnel, mais aussi sur le parcours des anciens, de ceux qui ne sont pas là devant nous, mais qui sont derrière nos patients. Et la plupart de nos patients viennent d'ailleurs. Et donc, vous avez dans la consultation une personne, mais derrière la personne, il y a une multitude de personnes qui sont influentes, qui influencent le fonctionnement psychologique, le comportement de notre patient. Et pour le comprendre, l'idée, c'est d'aller puiser dans la culture, l'origine, le parcours de ces patients. Et dans
des ancêtres de ces patients.
Voilà. Et moi, quand je reçois un patient... Alors qu'il soit, français de souche, enfin ça ne veut plus dire grand-chose, mais on va dire qu'il soit un migrant de l'intérieur, par exemple, parce que moi je travaille à Paris, donc j'accueille des gens qui vivent à Paris, et qu'il soit d'origine bretonne, normande, basque, ou qu'il soit d'origine congolaise, roumaine, au fond je fais... En psychologie, ce que font les médecins, c'est-à-dire, je dis, mais ok, dites-moi ce qui vous arrive, pourquoi vous venez me voir, et aussi, quels sont vos antécédents psychologiques, en quelque sorte, ou psychohistoriques ? Qu'est-ce qui s'est passé aux générations précédentes qui pourrait expliquer, peut-être, ce qui vous arrive, vos souffrances, et aussi, qui pourrait nous aider à trouver une solution à ce que vous vivez ?
Parfois, la réponse, elle se trouve justement dans notre histoire. Notre histoire familiale fait de nous ce que nous sommes, mais nos expériences de vie nous construisent aussi. Dans la chanson qui va suivre, Zao de Sagazan s'adresse à un amour passé. Est-ce que tu vas bien ?
Je ne sais plus qui j'aime, si c'est toi ou ton souvenir. J'ai tendance à ne retenir que le bon côté des choses. Dis-moi, elles étaient belles ces choses-là, suis-je la seule à penser à ça ? Est-ce que tu penses encore à moi ? Est-ce que tu vas bien ? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien ? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien ? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien ? Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi ? Est-ce que tu vas bien ? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien ? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien ? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu vas bien ? Je t'aime encore. Thank you.
tu vas bien, Zao de Sagazan ?
Yasmine Iblis.
C'est toi le jeune garçon qui vient du monde des vivants ?
Je suis Miguel, votre arrière-arrière-petit-fils.
Grand bien vous fasse.
J'ai un arrière-arrière-petit-fils.
Il me faut votre bénédiction pour pouvoir rentrer chez moi et devenir un musicien, comme vous.
Sur France Inter.
J'ai un arrière-arrière-petit-fils.
On vient d'entendre un extrait du film d'animation Coco. C'est Elsa Ramos qui est à mes côtés, qui l'a reconnu. C'est vrai que c'est très bien ça à voir avec nos enfants. Alors, se décider à explorer le passé de notre famille, c'est se lancer dans un travail d'enquête. Mais où chercher ? À qui demander ? Vous qui nous écoutez, avez-vous entrepris cette démarche ? On attend votre témoignage. Elsa Ramos, votre livre a été conçu pour nous aider à mener cette enquête familiale. Pour vous, il y a une question fondamentale avant de démarrer toute recherche, savoir ce qu'on cherche.
Oui, tout à fait, parce que... Alors, j'allais dire, déjà, il faut un informateur ou des informateurs, ou des informatrices, hein, ça c'est une chose, sans se réduire à son grand-père, sa grand-mère, ça peut être un parent, etc. On l'a déjà vu, ça peut être des tantes, des cousins aussi qui ont des documents. Et le fil, hein, savoir ce qu'on cherche, c'est effectivement, est-ce que c'est l'histoire de ma grand-mère ? Je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est l'histoire de la lignée maternelle ? Est-ce que c'est l'histoire... mon grand-père a vécu un événement particulier. Est-ce que c'est cet événement-là que je vais éclairer par l'histoire intime ? Et ce fil, il est nécessaire parce que quand on fait l'état des lieux, des documents ou des traces de ce qui reste, c'est eux, de ce qui reste de la famille, on peut se retrouver confronté à beaucoup... Alors après, ça dépend des familles, ça dépend des milieux sociaux, etc. Mais on peut se retrouver confronté, effectivement, à une masse des objets, des photos, des documents, etc. Et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc, c'est la première raison pour laquelle il faut se dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux raconter ? Voilà, qu'est-ce que je veux raconter ? Quelle histoire je veux raconter ? Et le fil, il est nécessaire aussi sous sa forme, c'est-à-dire, est-ce que je vais écrire un ouvrage ? Est-ce que je veux faire un documentaire ? Est-ce que je veux faire une BD ? Parce que les modes de recueil ne seront pas les mêmes. Donc voilà, donc quelque part le fil c'est d'emblée orienter un petit peu, sans le rigidifier, mais orienter un peu ce regard.
Pour compléter ce que vous dites, je vais m'adresser à François Baron. Est-ce que s'adresser aux grands-parents, c'est la première démarche que vous conseillez ?
Alors, non seulement aux grands-parents, mais aux grands-oncles, mais à l'arrière-grand-mère, qui, à l'époque, quand j'ai commencé, était encore là. Je leur ai demandé de me conserver ou de me donner les documents de famille qu'ils pouvaient posséder, les photos, de marquer les noms sur les photos. C'est un point de départ essentiel, sans lequel le travail, après, ne peut pas être mené à bien.
Évidemment. Alors, les documents dont vous parlez, je m'adresse à Edouard Bouillet maintenant. On l'a dit, vous êtes directeur des archives départementales de la Côte d'Or. Quel type de documents peut-on y trouver ? On ne sait pas forcément, à part, je ne sais pas, moi je pense à un registre de mariage ou de décès, mais on n'a pas idée. Dites-nous.
Bien, justement, après les documents ou les traces qu'Elsa et François ont décrit, on a un fil. Et grâce à ce fil, on peut aller explorer les archives public pour le coup, c'est-à-dire la trace que la puissance publique conserve de nos existences. Donc, on peut aller du plus tragique au plus banal. Le plus tragique, c'est dans le cas de familles juives, évidemment, les noms figurent sur les listes de rafles, sur les listes de démargement pour les gens qui allaient chercher leur étoile jaune. Contre d'ailleurs des tickets de tissu, donc des documents. Donc ça, c'est évidemment extrême, si j'ose dire. Mais plus banalement, si l'arrière-grand-mère a été institutrice, eh ben, elle a un dossier chez nous. Si l'arrière-grand-père a été cheminot, eh ben, on peut avoir aussi des traces dans les recensements de population. Vous voyez, les gens de la SNCF ou les gens qui construisaient les lignes de train étaient recensés, bougeaient à mesure qu'ils construisaient la ligne de train, donc on peut les suivre dans les recensements. Donc toutes ces archives publiques, au fond, elles complètent les archives privées, mais les archives privées, vous avez raison de dire que elles sont premières parce qu'elles orientent justement la recherche, sinon c'est un océan dans lequel on est un peu perplexe.
Oui, alors Nathalie Zaïdé, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez ethnopsychiatre, vous intéressez donc à l'histoire de vos patients, l'histoire des ancêtres de vos patients. Faites des recherches, sur quels documents justement vous vous appuyez ?
Alors, sur tous les documents possibles, c'est vrai que les archives sont très importantes, et je pensais en vous écoutant à une chose qui me touche beaucoup dans le travail de recherche généalogique de mes patients. Certains patients vont aux archives et, alors c'est vrai que sur l'internet on trouve maintenant beaucoup de choses, mais ils vont aux archives physiquement parce qu'ils sont en contact, vous parliez par exemple des étoiles jaunes des juifs qui ont été déportés, des papiers que les parents ont signés avant de partir, et donc on voit des descendants de déportés qui arrivent aux archives et qui prennent dans les mains des documents dont ils se disent que leurs parents, leurs grands-parents les ont touchés.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, la recherche généalogique, me semble-t-il, c'est aussi le fait de se relier tout d'un coup, de se mettre en lien physique, intellectuel, spirituel, voire, onirique aussi. Parce que on se met à faire des rêves. Hein, quand on commence cette démarche, les gens font des rêves. Et dans leurs rêves, des fois, voient apparaître ces êtres qui sont lointains et dont ils ont touché des morceaux de tissu, des morceaux de papier, c'est-à-dire qu'en fait, ils se relient à des absents. Et ça, du point de vue de la psychologie, de la psychothérapie, vous me parliez de mon métier, moi, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on reçoit des personnes qui arrivent chez nous parce qu'elles sont en souffrance. Elles ont des symptômes plus ou moins graves. Et le fait d'être isolée, de ne pas avoir de famille ou d'avoir très peu de famille, fait partie des éléments qui, malheureusement, aggravent la pathologie. Mmh. On voit se relier à des membres de sa famille qui ne sont plus là, mais qui éventuellement, soit auraient pu les aider, soit ont souffert des mêmes maux, parce qu'on découvre des choses comme
ça. Oui, vous le dites, ça relie. On voit François Baron qui acquiesce. Vous avez assisté à des choses comme ça ?
Alors, j'ai vécu moi, sans avoir un traumatisme particulier. Enfin, en découvrant la signature sur un testament holographe, dans une petite enveloppe, où on sait, du 19e siècle, vous ne pouvez pas imaginer l'émotion qu'on ressent. En se disant, c'est mon ancêtre, il a touché ce papier, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui
Instantanément. Édouard Bouillet, jusqu'à quand on peut remonter avec ces archives aujourd'hui ?
Eh bien, les registres de baptême remontent à la fin du 15e siècle. Avant, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de documents latins, il y a des documents qui sont écrits, enfin, qui ont une écriture un peu difficile. Et puis, avant le 13e siècle, au fond, il n'y a pas vraiment de patronyme, il n'y a pas vraiment de nom de famille. C'est des prénoms, des noms de baptême, comme on dit, ou des noms tout court, et avec des surnoms. Donc, ça devient plus difficile.
D'ailleurs, François Baron, en généalogie, les noms de famille, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement et ça donne une indication aussi sur ce qu'étaient nos ancêtres.
Ça peut donner une indication. Par exemple, ma grand-mère maternelle s'appelait Devaux. Bon, bah, Devaux, c'est. Ils étaient issus de la région de la montagne Devaux à côté d'Amiens, dans la vallée de la Somme, où vous avez des villages qui s'appellent Vaux-l'Éclusier, Vaux-sur-Somme, etc.
Donc, tous les noms français signifiaient quelque chose
français,
à l'origine.
Mais même ceux qui n'ont pas français, d'ailleurs, les noms alsaciens souvent ont une signification. Hein, quand vous appelez. Furmeister, je crois que c'était maître de forge, il me semble. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais enfin, il y a une signification.
Vous avez le lieu, vous avez le métier, la profession, vous avez une particularité physique. Le roux, le borgne, le beau, le...
Alors, pour remonter le temps, on peut explorer les archives, on l'a dit, faire partie d'un groupe, d'une association de généalogie. Certains ont recours au test ADN, pourtant interdit en France.
76 ans sans rien savoir de ses origines, jusqu'au jour où elle entend parler des tests ADN. Françoise tente sa chance.
Et il s'avère donc que c'est asiatique de l'Ouest à 81,6%. Je me suis regardée dans la glace, je me suis dit « mais j'ai rien d'asiatique ». Alors je me suis dit « c'est pas sérieux ». Par contre, j'ai regardé donc dans mon courrier... Et au mois de février, j'ai eu un message.
Chère madame, j'espère que vous allez bien. Je me permets ce message car j'ai fait le test ADN de mon papa et je vois dans ses résultats que vous seriez sa demi-sœur.
Celle qui lui écrit, Astrix Cyranocian, célèbre violoncelliste, a offert le même test ADN à son père pour Noël.
Pensez-vous que cela puisse être possible ?
Trois petits pois, évidemment.
Et c'est ainsi que Françoise, au gré des échanges, se découvre toute une famille du côté de son père biologique, d'origine arménienne. ces 82% asiatiques de l'Ouest s'expliquent enfin.
J'imaginais tout, sauf ça.
Un extrait d'un reportage d'Envoyé spécial pour France 2. Alors François Baron, on le sait, ces tests ADN sont interdits en France. La livraison même de ces tests ADN est interdite en France. Ce n'est pas pour autant que certains ne se les procurent pas. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre de concret ?
Alors, ça peut nous apprendre, nous découvrir une famille récente, c'est ce que le reportage précédent, c'est ce dont le reportage précédent parle. Je ne suis pas excessivement enthousiaste sur les tests ADN, pour plusieurs raisons, parce que ça ne m'intéresse pas de savoir si j'ai 10% de Néandertal, 30% d'Homo sapiens, si j'ai des ancêtres il y a 10 000 ans qui étaient en Laponie, où ça ne me passionne pas particulièrement. En plus, j'ai une certaine réticence par rapport aux bases de données. Mm-hmm. Que deviennent-elles qu'est-ce qu'elles deviendront dans 100 ans?
C'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit en France aussi.
J'ai pas envie de donner mon ADN pour qu'on s'en serve dans 100 ans.
Mais vous m'avez parlé de l'importance pour, par exemple, les personnes qui vivent aux Antilles françaises.
Alors, tout à fait. Les gens qui n'ont pas de passé, pour eux, c'est souvent le seul moyen d'accéder à un passé. Alors, si ce n'est très précis, parce qu'on pourra trouver le nom, le prénom du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, mais ils vont savoir de quelle région ils viennent. C'est typiquement les gens qui viennent des Caraïbes, par exemple, qui sont issus de l'esclavage, sur lesquels il n'y a aucune archive ou très peu d'archives. Ils ont besoin. Les enfants qui sont abandonnés, c'est exactement la même chose. Ils ont besoin de. C'est irrépressible, ils ont besoin de connaître leurs racines.
Édouard Bouillet, on parle encore une fois. Les archives sont au centre, hein, quand même, de cette émission. Quelles sont les erreurs de débutants en salle d'archives?
Oh bah des erreurs de lecture, il y a toutes sortes de bases de données généalogiques, et François, on le sait, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire que on peut tout d'un coup se trouver un arbre généalogique tout fait, le recopier, et puis il faut quand même vérifier, il faut vérifier les actes, parce que c'est Internet, il y a vraiment de tout.
Moi je dis que le généalogiste, même amateur, donc les 70% de Français qui font de la généalogie, ils se comportent comme un historien, et comme un historien, ils doivent sourcer leurs informations. On peut faire des erreurs, même les meilleurs historiens ont dû faire des erreurs, mais il faut que les autres puissent vérifier. En fait.
François Baron, donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait être accompagné, c'est mieux quand même.
Oui, il faut être accompagné, c'est bien si on est conseillé, mais c'est bien tout simplement d'être curieux et puis d'être précis.
Alors, vers qui on peut se tourner justement? Alors, par exemple, aux archives, est-ce qu'on peut être accompagné dans cette démarche?
Oui, bien sûr, nous on a une équipe d'accueil qui oriente, qui essaie de répondre aux questions. Quand vraiment ça devient très généalogique, on renvoie vers le cercle généalogique de Côte d'Or en disant, là vous avez vraiment un groupe... Mais vous savez, c'est quelquefois diabolique parce qu'il y a au 17e, il y a des gens qui donnent trois fois le même prénom à leurs enfants. Il y a trois Antoine, un, deux, trois, qu'ils soient morts-nés ou pas, qu'ils soient morts en bas âge ou pas. Ce qui fait que, quelquefois, c'est un peu... c'est onirique, mais ça tourne parfois au cauchemar.
Et quoi qu'il en soit, il faut avoir un petit temps devant soi. Il faut apprendre la patience. C'est pas une entreprise rapide. Alors, on continue à explorer nos racines et je vais vous proposer de faire un saut dans notre passé musical, cette fois. On remonte 21 ans en arrière. En 2024, Feist sortait Mushaboom. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay. Thank you.
acres, how much light, tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on a little rug barely on.
Machaboum.
Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis sur France Inter.
Alors, s'intéresser au passé de sa famille sur plusieurs générations peut réserver des surprises. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore et on, voilà, on va voir ce qu'on découvre dans cette boîte. Elsa Ramos, on parlait tout à l'heure de questionner sa famille, questionner les anciens. Comment s'adresser à eux sans les brusquer?
Alors j'ai une formule qui est la suivante. Les yeux, les oreilles. C'est-à-dire que quand on échange avec un proche, qu'on pose des questions, on va... parfois, il n'y a pas de réponse, au sens où on a un silence.
Parfois, ils ne veulent pas répondre.
Ouais. Et les yeux, donc les oreilles, ça veut dire il y a silence. Et les yeux, ça veut dire les yeux doivent détecter la nature du silence. Est-ce que la personne en face réfléchit? Est-ce que la personne, d'un coup, est déstabilisée? Il y a une émotion qui la prend et elle est en mal de répondre là tout de suite? Est-ce qu'elle ne veut pas répondre? Et je pense qu'il est fondamental, effectivement, donc les yeux, les oreilles, hein, une sorte un petit peu de phrase un peu qui doit guider l'entretien. Et il est fondamental de respecter le silence. Il est fondamental de respecter peut-être l'indicible pour la personne, peut-être les limites qu'elle met, parce que quand on fait un entretien avec une personne de la famille, on peut avoir un public qui est amené à connaître des choses dont on ne peut, voilà, où on n'a pas nécessairement envie de parler. Et parfois, il est plus facile, effectivement, de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, l'anthropologue, le sociologue, le thérapeute, enfin voilà, quand on est complètement extérieur. Donc, ce qui est fondamental, c'est vraiment d'écouter, et l'écoute, elle c'est l'écoute de ce silence-là.
Il faut être capable de l'accueillir, ce silence, et donc se préparer à ça, avoir du recul, en fait, quand on commence cette démarche.
Alors, tout à fait, parce qu'il y a peut-être aussi, il y a cette question-là du silence, du non-dissible ou du difficilement dissible, et il y a aussi la question de l'audible, à mon sens. C'est qu'est-ce que la personne qui est en face, elle est en mesure d'entendre, elle est en mesure de connaître.
Par rapport à sa situation dans la famille, en fait, c'est ça? C'est ce qu'on représente l'un pour l'autre aussi?
Oui, par rapport à sa situation dans la famille, mais par rapport aussi à ce qu'on ne connaît pas de la famille. Parce que dans la famille, on la connaît aussi un peu par ritournelle.
Alors un exemple, qu'est-ce qui peut être... C'est des silences familiaux qui traduisent des... Effectivement, ces zones d'ombre, elles ne sont pas là pour rien.
Non, elles peuvent être là pour protéger l'individu qu'est notre proche familial, c'est-à-dire mon grand-père ou mon père ou ma mère, peu importe le lien, est aussi un individu, au sens où il n'est pas que membre de la famille, et ça en tant que proche.
Une mère a été une femme aussi,
c'est ça, elle a pu avoir des amants, voilà. Donc ce sont toutes ces logiques-là, et il faut être en mesure, effectivement, de se distancier et de voir en notre proche familier l'individu.
Ça, c'est essentiel, en tout cas pour bien vivre cette démarche de quête d'histoire familiale. Alors Nathalie Zaïdé, vous êtes psychologue, mais vous êtes également autrice. Vous venez de publier un roman passionnant que j'ai dévoré, qui s'appelle La patiente du jeudi, publié aux éditions de l'Antilope. Et c'est l'histoire de Mona Rose. Alors Mona Rose, dans sa vie, rien de trop problématique, si ce n'est des histoires d'amour qui la satisfont pas, et des malaises inexpliqués. Quand son psy pratique avec elle une séance d'hypnose, elle parle une autre langue qu'elle ne connaît pas. Racontez-nous un peu.
Alors, elle se met à faire de ce qu'on appelle de la glossolalie. C'est assez rare. C'est-à-dire qu'elle parle... Glossolalie, ça veut dire parler en langue, en fait. Hein. Elle parle une langue qu'elle ne connaît pas. Son psy est un psy moderne, pas dogmatique. Il est impressionné. En plus, elle parle dans une voix... Enfin, elle a une voix bizarre, une voix d'homme. Elle est en état d'hypnose. Il voit que ça ne va pas très bien. Il enregistre. Il a le réflexe de prendre son portable et d'enregistrer. Il la réveille parce qu'il voit que ça ne peut pas continuer comme ça. Il lui fait écouter parce qu'il lui dit... Lui, c'est même pas ce que c'est, une langue ou des mots inventés. Elle s'effraie elle-même en écoutant l'enregistrement. Et donc, il comprend que... Voilà, il se renseigne. Le psy, elle dit, mais moi, je ne sais pas. Puis c'est comme si ce n'était pas moi, quoi. Hein. Il se renseigne auprès d'un habile linguiste qui lui dit, non, c'est ta patiente, là, elle parle une langue qui existe, enfin, qui existait. Elle parle le yiddish. Le yiddish, c'était la langue des juifs d'Europe centrale. Il y avait 9 millions de locuteurs jusqu'en 1940-41, enfin. Et donc... Le psy, à la séance suivante, le jeudi d'après, il dit à sa patiente, écoutez, vous avez parlé une langue qui existe, cette langue est à l'intérieur de vous, on va aller vous renseigner.
Alors, il faut savoir que donc Mona Rose, dans cette histoire, en fait, elle ne connaît rien de son passé. C'est une belle manière pour Nathalie Zaïdé d'aborder ce thème de l'importance de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Alors, c'est un roman, je l'ai dit, c'est une histoire que vous avez imaginée. D'après votre pratique de psychologue, ce genre de choses peuvent-elles arriver d'être habitées par un passé ? Alors, peut-être pas en parlant la langue de ses ancêtres, mais c'est à ce point-là ancré.
Alors, je vais vous donner un exemple clinique. Vous allez comprendre aussi pourquoi nous, les psys, les ethnopsies, on s'intéresse à ce point, à la culture et aux ancêtres. Je vais vous donner un exemple d'une femme que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, qui est mariée, qui est parisienne. Ses parents, elle a été élevée dans le nord de la France. Elle est mariée depuis plusieurs années et elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec son mari. Et donc, elle suit un programme, elle est suivie en procréation médicale, en PMA. Mmh. C'est un suivi assez difficile. Quand ça ne marche pas, et elle a fait 3 tentatives de PMA, et à chaque fois, c'est
un échec.
Un échec, et les échecs sont aussi des événements traumatiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle espère, à chaque fois, elle pense que ça va marcher, et à chaque fois, c'est un échec. Et alors, elle vient me voir parce qu'elle est dans un état, enfin, elle m'est adressée parce qu'elle va vraiment pas bien, quoi. Une grosse dépression, enfin, même proche d'une mélancolie. Et donc, je lui demande, quelles sont les histoires de procréation, enfin de maternité, dans votre famille ? Et là, elle m'apprend qu'elle va se renseigner, en fait. Donc, son père, en fait, est né au Maroc d'une mère qui, elle-même, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et la mère, donc, elle n'a pas connu cette grand-mère marocaine, elle n'a pratiquement rien de marocain, hein, je veux dire, c'est une ch'ti en fait. Hein. Et donc, elle apprend que cette grand-mère avait eu plusieurs fausses couches et n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et sa propre mère, alors là, il faut remonter, l'avait amenée sur le tombeau d'un saint. Ce qu'on appelle un wali au Maroc, c'est-à-dire que c'est un ancêtre qui est, une fois décédé, grâce à la baraka, en fait, soigne les gens qui viennent le visiter. Cette grand-mère est allée sur le tombeau du saint, a dormi là, a fait les rituels, a fait un vœu, a dit que si elle avait un enfant grâce à ce wali, à ce saint, elle le nommerait du nom du saint et elle viendrait chaque année remercier en pèlerinage. Elle a commencé comme ça, elle a eu un fils, donc le père de ma patiente, et pendant 3 ans, chaque année, elle se rendait sur le tombeau du saint, et après, elle a émigré en France. Et la patiente me dit, est-ce que je ne serais pas finalement en train d'hériter
Oui, c'est des choses. C'est effectivement ce que vous essayez de nous dire, c'est que tout ça est transmis. Cette histoire de maternité, en fait, elle est portée dans cette famille depuis plusieurs générations. Alors, on a un message d'une auditrice, Leïla, qui nous dit : je suis née d'un père malouin et d'une mère algérienne. Ma mère s'est fâchée avec sa famille. Elle efface sa culture qui lui rappelle trop son enfance et les traditions qui ont failli l'empêcher de se marier. J'ai donc l'impression de ne pas connaître la culture à laquelle on me ramène tout le temps. Elsa Ramos, dans le cas des enfants issus de l'immigration, c'est intéressant de s'intéresser aux déplacements géographiques.
Alors oui, tout à fait. C'est intéressant parce que il y a quelque chose qui est très fréquent, c'est le tourisme des racines. Et le tourisme des racines, ça veut dire aller dans le pays d'origine de ses parents ou de ses arrière-grands.
Parents,
grands-parents, arrière-grands-parents, c'est-à-dire dans un lieu qu'on ne connaît pas. Pour effectivement se construire avec cette idée de revenir en arrière, c'est construire un peu le futur. Après, je pense aussi ce qui est important de dire, c'est que tout le monde n'a pas cette démarche-là et n'a pas cette, comment dire, parce que dans ce qui a été dit, il y a vraiment une tension qui est dans les relations familiales, dans la place, dans la famille, il y a une tension entre, d'une part, l'autonomie de l'individu et d'autre part, de la construction des appartenances individuelles. Et dans cette histoire-là, on entend en fait l'idée de ne pas avoir eu envie de transmettre pour la mère, je crois.
D'avoir coupé.
C'est ça. Donc, après, je pense qu'il faut faire attention aussi avec l'idée de réifier la question des origines, de réifier la famille. Et on peut avoir tout à fait des cas. Donc, j'avais eu le cas dans une recherche, j'ai travaillé sur les Cap-Verdiens de Dakar. J'avais eu le cas dans une recherche où il y avait deux frères, où l'un me disait « je suis Cap-Verdien ». Il ne connaissait pas le pays, il n'était pas né, il n'avait pas le passeport. Enfin, voilà, tous les attributs à un moment d'une nationalité ou d'une origine un peu étatisée, institutionnalisée. Donc, il se tapait sur la poitrine en me disant « voilà, moi, je veux faire votre entretien parce que je suis un Cap-Verdien, etc. » Et donc, j'ai été voir son frère qui me dit « mais je ne comprends pas pourquoi vous venez me voir. Moi, je suis sénégalais, je suis Wolof. Ma première femme est Wolof, ma deuxième est Wolof. Je mange... Donc, il y avait tout un discours. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et c'est là où je dis qu'il faut faire attention à ne pas réifier la question des racines, parce qu'on peut tout à fait avoir, dans une fratrie, des configurations qui ne sont pas les mêmes dans le rapport même aux anciens et à l'histoire de famille.
Alors, la recherche des origines pour un enfant né sous X, c'est encore autre chose. C'est un moment charnière. On va écouter le créateur de mode Olivier Rousteing dans le documentaire Wonder Boy réalisé par Anissa Banfon. Il part à la recherche de ses origines et nous allons percevoir son immense émotion à un moment clé de sa recherche.
Bah, ma première attente, c'est de pouvoir mettre un visage finalement sur mes parents. Oui. Mais bon, évidemment, je ne l'aurai pas aujourd'hui. Comprendre d'où je viens, oui. Mes origines.
Oui.
Parce que j'ai grandi sans réellement savoir pourquoi cette couleur.
Oui.
Et puis aussi le motif.
D'accord.
De l'abandon.
Donc, on va, en premier lieu, on va s'arrêter sur votre état civil. Vous avez eu plusieurs noms.
Ah bon ?
Vous avez été déclaré à l'état civil sous le nom de Claude. C'est votre première identité.
Excusez-moi, j'ai un petit peu...
Vous voulez faire une petite pause ?
Non, ça va aller.
Elle était en cinquième à Djibouti. Va entrer dans un LEP privé pour y faire de l'informatique. Elle a subi une césarienne. Elle n'a pas vu l'enfant.
C'est fou parce que j'ai toujours rêvé d'avoir ça en face de moi. J'ai toujours pensé que je serais tellement fort et que je contrôlerais mes émotions et que je serais capable d'anticiper quelles que soient les réponses. Et là, aujourd'hui, je pense que je me sens pas libéré encore. Je me regardais dans une glace en me disant « Ok, je viens de ce continent-là, de tel pays. » J'ai pas de photo.
Ces documents, la force des documents qui vont révéler l'histoire d'Olivier Rousteing, on sent l'émotion, mais on sent aussi que ça peut être une douleur. Alors, est-ce que la douleur que peut engendrer certaines informations reçues, est-ce qu'elles peuvent être transformées en apaisement? Et si oui, comment, Nathalie Zaïdée?
Alors, moi, je suis psychologue, psychothérapeute. Quand je rencontre mes patients, je me dit toujours, il faut que les douleurs, ce qu'on va découvrir, nous mènent toujours à un chemin de réparation. Et là, ce qu'on vient d'entendre de François Rousteing, c'est le début d'un parcours. En fait, il est choqué, et en même temps, il a une connaissance, il a acquis quelque chose. Et il sait quelque chose sur son père, sur sa mère, sur les conditions de sa naissance. C'est, évidemment, sur le moment, il apprend ça, et il est extrêmement... triste, même plus que triste.
Il est effondré.
Il est effondré. Mais c'est ça va être le début d'une nouvelle, comment dire, d'une nouvelle existence en quelque sorte, d'un nouveau parcours.
Il sera fort de cette information. Il va pouvoir s'ancrer.
Plus que ça, oui, il va s'ancrer et il va être dynamisé. Et là, c'est pour ça que moi j'ai envie de vous dire, les ancêtres, ce n'est pas le passé, c'est le futur. C'est ce qui va nous, parce que c'est, on va découvrir quelque chose sur un ancien, sur un ancêtre. Qui va être un mort de sa famille, qui va nous déterminer en fait, ou déterminer une partie de notre être. En tout cas, à partir de ce moment où il apprend ce qu'il apprend, ce qui est advenu à sa mère, de quelle maman il est né, dans quelles circonstances, ça va complètement modifier son existence, la perspective de vie, et puis aussi il va regarder le monde autrement, il va faire une démarche. À partir de, enfin, il va faire une démarche dans son existence qui va être une nouvelle démarche. Autrement dit, ce passé, pour lui, c'est l'avenir.
C'est bien pour ça que je parlais de moments charnières dans son existence. Alors, ce thème d'émission aujourd'hui fait réagir. On a reçu beaucoup de messages et on a aussi reçu un appel de France qui est en ligne avec nous. Bonjour France.
Bonjour.
Alors, vous vouliez partager avec nous ce matin?
Oui, absolument. Je voulais vous faire part en fait d'un deuil que j'ai pu faire par rapport à l'histoire de mes arrière-grands-parents résistants, donc qui ont fait partie d'un réseau, l'Orchestre Rouge. Et en fait, à travers ma grand-mère avec qui j'ai côtoyé toute mon enfance, donc fille de cette famille Corbin. J'ai senti en fait de l'émotion et du blocage en fait, et j'ai toujours été en empathie avec cette grand-mère, si bien que à l'adolescence, le malaise grandissant, grâce à la troisième où on a eu un travail sur la résistance, les choses ont commencé à se dire autour de moi. Évidemment, j'ai fait un concours de résistance sur le thème des femmes dans le maquis, etc. Et ça, toujours inconsciemment, hein, en fait, j'étais tenu par cette thématique de la résistance et en fait mon père a commencé à me divulguer en fait des secrets autour de la mort de cet arrière-grand-père et de cette arrière-grand-mère.
Et ça vous a apaisé, France?
Oui, absolument. La question, voilà, le sujet que je voulais aborder, c'est l'apaisement, c'est-à-dire d'aller sur le lieu de la mort, le lieu de la condamnation. Ça m'a vraiment permis de faire à la fois un rituel.
Et c'est ce qu'on voit ce matin avec nos invités, c'est à quel point, effectivement, ça nous apprend des choses sur notre passé, mais ça nous permet de nous ancrer. Alors, après avoir parlé du passé, tournons-nous vers l'avenir. Nos enfants, comment les aider à s'intéresser à notre histoire familiale? C'est les conseils de nos invités après Tyler, the Creator, et Tizo Touchdown, Darling Eye. Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us. Check. Darling, I keep falling in love. Darling, I keep falling in love. Da da da, keep falling in love. No, 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 no. For the best of all. Come on.
Ready to drift, my Ferrari handle better and it's pretty as shit. Feel safe in the Rolls, big boy when I drive. Love them all for different reasons at the same damn time. See monogamy, that shit is not for me. One option for everybody, don't you lie to me. Too many rules, I'm too curious to try to be. Hiding things, feeling shame for the side of me. Cause honestly, darling, I keep falling in love.
entity is not perfect. So how can I get everything from one person? I'm at the altar, but I'm still searching. I'm only human. If it ain't work, things change. And nothing stay the same, I believe. Maybe letting go is a beautiful thing. Perfect for the time being. I ain't do nothing wrong. Life is short, but forever is so goddamn long. I like a long time. I'm on my own time. I love this good old. I hit the gold mine. I'm thinking new crib. I'm thinking two kids. Until I get infatuated with a new bitch. But when that gray hair finally come, at least I felt something if I ain't find the one. Nobody could fulfill me like this music shit does. So I'll be lonely with these Grammys when it's all said and done. Come on.
Tyler, the Creator et Tizo Touchdown, Darling Eye.
France Inter, grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
On l'a vu grâce à nos invités connaître son histoire familiale, l'histoire de son pays, c'est avoir des bases solides pour avancer et construire son avenir. Et si on facilitait dès maintenant le travail de nos futurs arrière-petits-enfants, par exemple, qui n'est pas à déployer des efforts monstrueux pour connaître notre vie à nous. Alors, ce thème, il vous inspire parce qu'on a reçu beaucoup de messages, notamment celui de Marie qui dit « Je viens de livrer à mes enfants le livre que je viens d'écrire sur notre généalogie. Ce fut un moment extraordinaire. Pour moi, ce fut 7 mois d'un travail intense et passionnant. Marie n'est pas la seule à avoir fait cette démarche. Donc c'est assez nouveau, je trouve ça très intéressant. Alors, François Baron, votre association Les Jeunes et la Généalogie, va dans les écoles, vous animez des ateliers. Comment réagissent les enfants quand vous venez et vous adressez à eux?
Alors c'est comme dans toute classe, on s'adresse souvent à des CM1, des CM2, voire quelquefois un peu plus grands, mais CM1, CM2 qui sont un petit peu le cœur de j'aime pas trop ce terme, de notre cible, je dirais. Vous avez des enfants qui se désintéressent totalement de la chose, et puis d'autres qui sortent en disant « C'est génial, monsieur, on a fait des trucs, on a découvert plein de choses. » On ne fait pas leur généalogie, parce que ce sont des enfants que nous voyons en 2 heures. Mm-hmm. Donc on ne peut pas faire la généalogie de 25 ou 30 enfants, d'autant plus que ça serait très compliqué au niveau des autorisations familiales. Donc on prend souvent un personnage extérieur, donc un soldat du Monument aux Morts. On a travaillé beaucoup avec les archives diplomatiques que nous avons pris comme sujet. Romain Gary, qui a un dossier aux archives diplomatiques, puisqu'il est né à Vilnius, il a été naturalisé français, et il a représenté la France dans tout un tas de pays du monde. Dans des classes qui sont souvent des classes de REP, des enfants qui viennent de l'immigration, on essaie de faire passer un message subliminal. On peut faire quelque chose de sa vie. Et ces enfants sont... Nous apprenons nous-mêmes beaucoup de choses de ces enfants, qui sont très riches. Je me rappelle parfaitement d'avoir eu un petit Afghan dans une classe de CM2 d'Aubervilliers.
Le genre d'Aubervilliers, on embrasse les Albert Sibylariens,
voilà.
Ce matin.
qui était là, sa famille était là depuis 6 mois. Bon, ils avaient fui les talibans. Et qui expliquait à un petit Sri Lankais qui est là en France depuis 2 mois ce qu'on était en train de faire. Mm-hmm. Les enfants ont une richesse, en particulier de langue, qui est remarquable.
Et ce qu'on espère après ça, c'est qu'en famille, ils constituent leur arbre généalogique.
Alors,
Édouard Bouillet, est-ce qu'il est possible de venir consulter les archives de son département en famille?
Oui, alors les enfants, on les reçoit sous forme de, enfin, en classe, ça peut être très intéressant. Vous parliez des enfants issus de l'immigration, donc des quartiers périurbains, ça peut être intéressant de leur montrer que la cité qu'ils habitent était un petit village de campagne, et au contraire, les gens qui viennent du milieu rural, bah là c'est du gâteau, les familles sont là depuis 200 ans, donc vous sortez un registre de n'importe quoi, ils retrouvent les noms, donc ça c'est facile. Mais le moment privilégié pour la découverte en famille, c'est finalement les journées du patrimoine. On reçoit 1000, 1200 personnes. Les gens viennent en famille. Et souvent, nous on reprend cette expression, je rebondis sur ce qu'a dit François. Il y a des gens, les enfants qui s'en fichent un peu. Hein, dans une fratrie, il y en a un qui s'y intéresse, l'autre qui s'y intéresse pas. Mais on a des enfants qui ont les yeux qui brillent. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui
passe. Il y a quelque chose. Eh bien, écoutez, merci infiniment à vous quatre d'avoir pris le temps de cet échange ce matin sur l'importance de connaître nos racines. On l'a vu, notre histoire.
définit une partie de ce que nous sommes, et quelle qu'elle soit, elle peut peut-être apaiser une part de nous. Édouard Bouillet, on vous laisse retrouver la Côte d'Or et les archives départementales que vous dirigez. Nathalie Zaïdé, l'histoire de Mona Rose que l'on a évoquée pendant cette émission est à retrouver dans votre roman La Patiente du Jeudi aux éditions L'Antilope. François Baron, votre association Les Jeunes et, la généalogie est ouverte à tous. On peut retrouver votre site internet. Elsa Ramos, votre livre Un anthropologue dans ma famille aux éditions Bûcher-Castel est disponible pour toutes les familles qui souhaiteraient mener leur petite enquête. Un grand merci aux équipes qui, comme chaque matin, étaient à mes côtés pour concevoir cette émission. Maria Pasquet à la réalisation, Thierry Dupin à la programmation musicale, Jessica Bagic, Lucie Grandet-Lavigne, Noélia Filliol, Elina Garcia et Elena Cor à la préparation. On se retrouve demain à 10h pour se demander comment en finir avec les relations toxiques.